France Inter.
Il est 5h12, il s'en passe des choses sous l'eau et on le voit tous les matins dans vos chroniques littorales. José Manuel Lamarque, bonjour.
Bonjour Mathilde Milot.
Aujourd'hui, gros plan sur le carbone bleu.
Qui sait ce qu'est le carbone bleu? Eh bien, Jean-Eudes de Tesson, président de l'association Carbone Bleu des Marais que j'ai rencontré, nous le fait découvrir parce que récemment, personne ne savait ce qu'était le carbone bleu. Jean-Eudes de Tesson.
C'est normal que personne ne sache puisque le terme a été inventé par le Fonds des Nations Unies pour l'environnement en 2009 pour décrire la capacité de certaines zones maritimes à capter le carbone et le séquestrer dans le sous-sol pendant des centaines ou des milliers d'années. Et ce, beaucoup plus que le font les forêts, par exemple. Ces zones dont on parle, c'est-à-dire ces puits de carbone, ce sont des écosystèmes côtiers végétalisés qui représentent à peu près 0,5% des surfaces des océans, mais qui séquestrent 50% du carbone séquestré par les océans. Et ces zones, ce sont les mangroves, les marais salés, les prés salés, les estuaires aussi d'une certaine façon, et les herbiers, notamment les herbiers de Posidonie qu'on trouve surtout en Méditerranée. Les végétaux qui sont en suspension dans l'eau ou autour de cette eau, par la photosynthèse, ont un sol de carbone qui est négatif, c'est-à-dire qu'elle respire, donc ça émet du carbone, mais surtout par la photosynthèse, ça capte du carbone. Et le solde est très important, c'est-à-dire qu'on capte plus qu'on émet, et il peut y avoir aussi par les sédiments, les végétaux qui sont entraînés par les rivières, par les océans, et qui sont en contact avec ces écosystèmes. Finalement, tout ça fait que ce carbone, par la sédimentation, est entraîné vers le sol et avec la sédimentation successive, ça finit par être séquestré et définitivement d'une certaine façon. Donc en réalité, c'est bien du CO2 qui est transformé en carbone organique et séquestré dans le sous-sol.
C'est important ou c'est pas important ce carbone bleu?
Alors, on estime que ces écosystèmes captent à l'hectare entre 3 et 10 fois plus qu'une forêt, mais séquestrent dans le sous-sol entre 30 et 100 fois plus qu'une forêt, et notamment qu'une forêt tropicale. Donc en réalité, c'est un phénomène qu'on a oublié parce que ça se voit moins. Et puis, on s'est intéressé aux mangroves un peu et aux herbiers parce qu'ils sont menacés. Les marais salés, ils sont protégés en général, c'est Natura 2000. Mais le malheur, qui dit protégé, dit non entretenu. Et un marais salé qu'on n'entretient pas, c'est non seulement un marais salé qui ne capte plus de carbone, mais c'est un marais salé qui émet du carbone, voire du méthane. Et le méthane est infiniment plus dangereux que le carbone.
Ce carbone, que fait-il?
En fait, c'est l'empilement de couches de sédiments qui fait qu'il est là et il reste. Par exemple, on le sait maintenant de façon beaucoup plus précise, mais par exemple, la baie de l'Aiguillon entre La Rochelle et la Vendée est un puits de carbone puisque la sédimentation fait augmenter l'altitude de la baie de l'Aiguillon de plus d'un centimètre par an, c'est-à-dire plus vite que la hausse du niveau de la mer. Et d'ailleurs, il se trouve que, et c'est une bonne nouvelle, ces zones-là, qui en dehors de capter les séquestrés de carbone, sont des remparts contre l'érosion et la submersion. Et avec la sédimentation, l'effet rempart augmente toujours un peu plus. La baie du Mont-Saint-Michel, à certains endroits, c'est 3 cm de plus chaque année, grâce à la sédimentation qui contient du carbone. Et puis il y a un troisième phénomène aussi, c'est la biodiversité qu'il y a dans ces zones. Dans les mangroves, les poissons viennent frayer, c'est une nurserie incroyable. Les herbiers de Posidonie sont des zones où aussi les poissons viennent frayer et on va retrouver énormément d'espèces en Méditerranée et seulement dans ces zones-là, par exemple.
Alors, c'est une bonne ou une mauvaise chose, tout ce que vous nous expliquez, Jean-Luc Tesson?
Ce n'est pas qu'une bonne nouvelle, la découverte du carbone bleu, parce qu'on s'aperçoit aussi que ces zones-là sont détruites. Elles ont perdu dans le monde entre 35 et 50% de leur surface dans les 30 dernières années, et notamment les mangroves qui, entre 1980 et 2000, ont perdu plus de 35% de leur surface. Alors pourquoi elles ont perdu ces surfaces-là? Parce qu'on a voulu construire. Et quand on détruit une mangrove pour construire un littoral, non seulement on stoppe la captation de carbone, puisqu'on creuse, on rejette dans l'atmosphère tout le carbone qui a été séquestré pendant des centaines, voire des milliers d'années. La destruction d'une mangrove, c'est une vraie catastrophe écologique, 100 fois plus parfois que la destruction d'une forêt.
Merci à vous, Jean-Eudes de Tesson. Un site internet, carbonebleudesmarais.org. À demain, Mathilde Minot.
À demain, José Manuel Lamarque. Et on peut retrouver vos chroniques littorales sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.